Livre sur la terre comme au ciel, texte de Camille Mélois, illustration en couleur de Jeanne Ebelink. Cher enfant, tous les jours tu prononces ces mots, chaque fois que tu récites le Notre Père. Tu demandes à Dieu qu'il soit le roi auquel tout le monde obéisse avec joie, comme les anges lui obéissent au ciel. Ah, si les hommes voulaient se soumettre à lui, observer ses commandements, comme ils seraient heureux, la terre serait déjà comme un reflet du paradis. Il y a des âmes qui ici-bas comprennent et sentent parfois le bonheur qui les attend là-haut. Ce sont les saints. Ils ont beaucoup à souffrir, sans doute, mais ils souffrent pour l'amour de Dieu, et Dieu les entend souvent dès cette vie par de grandes consolations. Mon enfant, veux-tu être heureux maintenant et pendant l'éternité? Il n'y a qu'un moyen, mais avec l'aide de la grâce, il est à la portée de tous. Aimer beaucoup le bon Dieu et faire sa volonté sur la terre comme les anges la font au ciel. Histoire de Tarcissus, le petit martyr de l'Ostie. Mon cher enfant, tu vas faire bientôt ta communion solennelle et déjà tu as le grand bonheur de recevoir souvent dans ton cœur le bon Jésus. Tu sais que la sainte Ostie que le prêtre dépose sur ta langue, c'est sous des apparences de pain, le corps et le sang de notre divin Sauveur. Prépare-toi bien à tes communions. Quand tu as reçu Jésus, n'oublie jamais de le remercier et garde ton cœur pur de toute tâche en songeant qu'il est le tabernacle de ton Dieu. Connais-tu l'histoire de Saint Tarcissus? C'était au premier temps du christianisme, un enfant romain de ton âge. En ces temps-là, les chrétiens devaient pratiquer leur religion en cachette, car les païens les recherchaient pour les tuer. Tarcissus servait souvent la messe, et il était si pur, si pieux, que les prêtres lui confiaient parfois des saintes hosties pour les porter secrètement aux chrétiens malades dans leur maison, afin que ceux-ci, malgré le malheur des temps, puissent communier. Un jour, le petit acolyte revenait de la messe, cachant sur sa poitrine son précieux trésor. Il marchait si recueilli dans les rues de Rome qu'on eût dit un ange du bon Dieu. Mais les méchants païens ne pouvaient comprendre. Sur la voie Appienne, qui était une des grandes artères de la Rome antique, des soldats virent passer le petit garçon, si différent des petits Romains de son âge, et l'interpellèrent. Mais, sans lever les yeux, il hâta le pas. Intrigués et irrités, les soldats le rejoignirent et le sommèrent de leur dire ce qu'il portait sous son habit. Tarcissus supplia doucement, « Laissez-moi, je suis très pressé. » Mais cela ne fit que les exciter davantage. Ils le saisirent par les épaules, le secouèrent, et comme l'enfant serrait toujours fortement ses deux mains sur sa poitrine, ils le battirent, le blessèrent de coups de pierre et de bâton, jusqu'à ce qu'il roulât mort sur les larges dalles de lave de la voie, où son jeune sang mit des taches rouges. Alors ils le fouillèrent, assurés, enfin, croyait-il, de découvrir le secret trésor que portait ce petit chrétien dont il haïssait la divine religion. Mais ils ne trouvèrent point les saintes hosties. Dieu ne permit point qu'elles fussent profanées par ces ignobles bourreaux. Qu'était-elle devenue? Est-ce qu'un ange du ciel était venu les recevoir des mains de Tarcissus, cet ange de la terre? Ou, par un touchant miracle, était-elle entrée dans le cœur si pur du jeune héros qui était plus digne de les garder que le plus riche des tabernacles? Les chrétiens enterrèrent le corps du petit martyr dans un de ces vastes souterrains de Rome qu'on appelle catacombe. Mon cher enfant, aime et prie ton frère du ciel, Saint Tarcissus, qu'il t'obtienne la grâce de communier souvent et avec ferveur et de garder toujours Jésus en toi comme une lumière, une force et une joie. Voici un autre conte. Les souliers de la Vierge. Le miracle que je vais te conter se trouve relaté dans la vie de Sainte Véronique Guigliani. Véronique est le nom qu'elle prit en entrant au couvent. Au baptême, elle avait reçu celui d'Ursule. Née en 1660 à Mercatello, en Italie, Ursule était la septième fille de François Guigliani et de Benedicta Mancini. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle perdit sa mère, mais cette pieuse femme eut l'heureuse inspiration, avant de mourir, de mettre ses 5 filles encore en vie sous la protection des 5 plaies de notre divin Sauveur. C'est dans la plaie du Sacré-Cœur qu'elle abrita sa petite Ursule. Dès sa plus tendre enfance, Ursule parut favorisée de grâces précieuses. On voyait que le bon Dieu et la Sainte Vierge l'aimaient bien. Elle répondait fidèlement à ses célestes prévenances. Elle avait donc au ciel 2 mamans, sa mère et Notre-Dame. Nous avons tous 2 mamans, si nous le voulons, mon cher enfant. Notre maman de la terre, qui nous chérit tendrement, qui veille sur nous, qui nous a appris à prier, qui nous aide à être sages, et aussi notre maman du ciel, la propre mère de Jésus. Tu te rappelles qu'avant de mourir, voyant sous sa croix Marie, sa mère, et Jean, son disciple bien-aimé, Jésus a dit à Jean, en désignant Marie, « Voilà ta mère », et à Marie, en désignant Jean, « Voilà ton fils ». Or Jean représentait là tous les hommes. Il faut beaucoup aimer la Sainte Vierge, mon enfant, et la prier tous les jours, matin et soir. Tu es sûr dès lors de ne jamais te perdre. Il faut éviter aussi de lui faire de la peine. Est-ce qu'un brave enfant fait de la peine à sa maman? Tout ce qui plaît à Jésus plaît à Marie. Comme elle doit être heureuse en voyant que les petits garçons et les petites filles, qu'elle appelle ses enfants, sont pieux, charitables, obéissants, modestes. Tu vas voir comment elle récompensa la vertu de la petite Ursule Guigliani. Un jour, jouant seule au jardin, un vaste jardin d'arbres et de fleurs, clôturé par une grille, Ursule vit dans la rue, qui le longeait, une pauvre femme couverte de haillons, traînant une petite fille tout en larmes. Intriguée et déjà émue de compassion, Ursule laissa tomber ses jouets et regarda de ses grands yeux étonnés. Elle vit que les pieds de la petite fille étaient nus, souillés de poussière et de sang. La mère elle-même allait pieds nus, mais sa peau moins tendre résistait mieux à la dureté des pierres du chemin. Ursule se mit à pleurer et fit signe à la pauvresse. Celle-ci s'arrêta sans deviner ce qu'on lui voulait. Prise de pitié pour la jolie petite fille riche qui pleurait, car les pauvres, ayant souffert, sont plus capables de comprendre la peine d'autrui et souvent plus portés à la secourir. Ursule semblait très préoccupée. Elle cherchait un moyen de secourir la petite fille pauvre. D'argent, elle n'en avait pas. Les enfants n'en ont pas besoin, puisque leurs parents leur procurent tout le nécessaire. Soudain, son visage s'éclaira. Dans ses yeux encore pleins de larmes, une belle joie parut. Elle se pencha, ôta vivement ses chaussures, de jolies pantoufles de cuir rouge, et les tendit entre les barreaux de la grille à l'enfant pauvre. Je ne sais si elle fut grondée par son père ou par la gouvernante, je ne le crois pas, mais sa bonne action était déjà récompensée par la joie de la petite et la reconnaissance de la mère. Une plus grande récompense lui était réservée. Le soir, lorsqu'après ses prières, la fatigue lui eut fermé les yeux, voici que soudain sa petite chambre, où la bonne avait déjà soufflé la chandelle, s'illumina d'une douce clarté. En face de l'enfant étonné apparut une jeune dame souriante et belle comme une reine. C'était la Sainte Vierge. Ursule le comprit tout de suite. Main jointe, la petite fille contemplait avidement sa mère céleste. Quel beau visage ! La majesté du front, ceint d'un diadème d'or, se tempérait par la douceur du regard et l'ineffable sourire des lèvres. Un manteau de soie fine et pâle comme un clair de lune retombait en souples plis sur une robe blanche comme de la neige. Les mains tendues vers sa petite amie, tout à coup, la belle reine fit deux pas, et alors de dessous sa longue robe flottante, un de ses pieds sortit, puis l'autre, chaussé des plus jolies pantoufles qu'on puisse rêver. Ursule en fut si frappée que ses regards ne purent plus s'en détacher. Ses chaussures, elle croyait bien les reconnaître, des pantoufles de cuir rouge. Et oui, c'étaient les siennes, celles qu'elle avait données à l'enfant pauvre. C'était bien celles-là, et pourtant, comme elles étaient plus jolies, le cuir rouge en était lumineux comme le vin quand papa lève son verre devant la lampe ou vers la croisée. Elles étaient maintenant bordées d'or, ou peut-être de soleil. Elle ne savait pas au juste tant cela brillait. À mesure qu'Ursule regardait, elle remarquait mieux que ce qui brillait ainsi, ce n'était pas seulement ce cuir rouge embelli et ce liseré d'or, mais de magnifiques pierres précieuses couvrant toute l'ampleur. Au milieu, là où les pantoufles de nos petites filles portent quelquefois un nœud de soie ou un petit pompon de peluche, étincelait un gros diamant. Et tout autour, saphir, topaz, améthyste, émeraude, béryl, escarboucle, hyacinthe, toute espèce de pierre dont la petite Ursule ne savait pas plus que toi les noms difficiles, mêlaient leur feu bleu, rouge, vert, mauve, pourpre. Et l'on eût dit des souliers taillés dans de l'aurore ou du soleil couchant. La Sainte Vierge fit comprendre par là à sa pieuse petite amie quel prix le bon Dieu attache à une aumône bien faite et quel mérite nous vaut la charité. Quand la vision eut disparu, Ursule demeura main jointe et bouche bée, l'âme inondée de joie. Tu penses bien qu'elle aima encore davantage sa bonne mère du ciel à partir de ce moment-là. Crois-moi, mon cher enfant, chaque fois que tu t'imposes un petit sacrifice, la Sainte Vierge t'approuve. Elle ne vient pas te le dire, mais c'est tout comme. D'ailleurs, plus tard, quand après une vie vertueuse, le bon Dieu t'aura ouvert son beau paradis, tu verras bien qu'elle n'aura rien oublié de ce que tu auras fait pour elle. Et ses baisers te seront plus doux encore que ceux dont ta maman te récompense maintenant, chaque fois que tu lui as fait plaisir. Voici un autre conte. Il y avait une fois une bergère. Être docile, respectueux, obéissant, voilà le devoir des petits garçons et des petites filles. Ils sont faibles, ignorants, irréfléchis. C'est bien de la chance qu'ils aient de bons parents pour s'occuper d'eux. Et c'est bien le moins dès lors qu'ils leur soient soumis. Le bon Dieu l'a commandé expressément. Sois heureux, mon cher enfant, ton père et ta mère t'aiment bien, même quand tes défauts les obligent à te gronder. Sais-tu que tous les enfants n'ont pas ce bonheur? Il y en a qui sont orphelins, comme ça doit être triste. Il y en a même, mais ils sont plus rares, Dieu merci, qui n'ont pas de parents dévoués. Écoute l'histoire d'une petite fille pauvre que ses parents n'ont point gâtée, et non, mais qui leur fut quand même très soumise. Elle s'appelait Germaine Cousin. Maintenant, c'est une sainte du paradis. Non loin de Toulouse, il existe un village du nom de Pibrac. C'est là que naquit Germaine, vers 1579. À cette époque, le seigneur du village s'appelait Guy Dufour, et il était poète, c'est-à-dire qu'il composait des vers, de ces petites phrases qui ont l'air de danser et de chanter toutes seules, comme on t'en fait apprendre par cœur et réciter au jour de fête. Ce monsieur était très estimé à cause de cela, et à juste titre, car faire de bons vers, c'est très difficile, plus difficile que de faire de bonnes pâtisseries. Et c'est pourquoi il y a moins de poètes que de pâtissiers, et ils sont beaucoup plus honorés. Guy Dufour l'était tant que deux reines vinrent lui rendre visite à Pibrac. Eh bien, qui se souvient encore de Monsieur Guy Dufour? Qui parle encore même à Pibrac des deux reines qui vinrent le complimenter dans son château? Personne, ou presque. Mais la petite sainte de Pibrac, Germaine, la pauvrette, est célèbre. On l'a pris, on vient en pèlerinage à son tombeau. Qu'a-t-elle donc fait de si extraordinaire? Rien, sinon garder ses moutons, filer sa quenouille, prier, souffrir en silence, toujours soumise, patiente et aimable. Elle a fait exactement ce que le bon Dieu désirait d'elle. Elle n'aurait pu mieux faire ni plus grand. Mais tu grilles de connaître son histoire, j'y arrive. Les parents de Germaine étaient de pauvres gens qui cultivaient un petit bout de terrain et élevaient quelques moutons. Le père s'appelait Laurent Cousin et la mère Marie Laroche. Germaine était née toute chétive, laide et infirme. Sa main droite difforme pendait inerte, comme desséchée. De plus, son cou était tout gonflé à cause d'une maladie vilaine à voir qu'on nomme les écrouelles. Dieu, qui fit plus tard de beaux miracles en sa faveur, aurait pu la guérir, mais il voulait qu'elle se sanctifiât dans la souffrance. Encore au berceau, Germaine perdit sa mère, et son père se remaria. La nouvelle dame Cousin avait mauvais caractère. Elle se mit tout de suite à détester la petite infirme. La pauvrette eut à souffrir davantage à mesure qu'elle grandissait. Sa seconde mère ne lui permettait pas de jouer avec ses petits frères et sœurs, ni de manger à la table de famille, ni de prendre place le soir dans le cercle autour du feu. En guise de lit, elle ne lui accorda qu'une couche de sarment de vigne sous l'escalier. Maître Laurent Cousin, le père, aurait dû s'opposer à ces mauvais traitements. Mais il n'en faisait rien, il se taisait. Il n'était pas bien courageux, non. Germaine fut envoyée dans la lande pour garder les moutons. Chaque jour, de grand matin, elle partait munie d'un crouton de pain noir pour toute nourriture. C'est dans la lande, avec ses bonnes bêtes, parmi les herbes et les buissons, qu'elle était le plus tranquille. Malgré son infirmité, elle filait sa quenouille de lin, et puis elle disait son chapelet, elle pensait au bon Dieu. À la maison, l'attendaient les injures et les coups. Ici, en priant, elle apprenait à les recevoir sans murmure et sans plainte. Elle n'aimait rien tant que d'assister à la sainte messe et de communier. Mais en semaine, on ne lui en laissait pas l'occasion. Cependant, elle sut fort bien concilier sa dévotion avec ses rudes devoirs. Chaque matin, dès que commençait à tinter la petite cloche de l'église de Pibrac, Germaine plantait sa quenouille en terre et, confiant son troupeau à la garde des anges, courait assister à la messe. Les moutons demeuraient tout ce temps-là autour de la quenouille, broutant sagement, sans jamais s'égayer dans les champs ou les bois voisins. Et les loups, si gloutons pourtant, n'osaient pas approcher. Jamais ils n'enlevèrent même un agneau. Ce qui est plus merveilleux encore, c'est que les moutons de Laurent Cousin étaient les plus beaux et les plus gras de toute la contrée. Mais la marâtre n'en battait pas moins la pauvre bergère. Les voisins blâmaient ouvertement la méchante femme. Il y eut cependant de mauvais chrétiens pour railler Germaine, qu'ils surnommaient la bigote. Dieu fit encore un grand miracle pour les confondre. Une fois, les pluies d'hiver avaient gonflé les eaux du torrent du Courbet qui séparait la lande du village. Au premier son de cloche, la bergère, à son habitude, se mit en route pour l'église. Arrivée au torrent, elle constata que les eaux se répandaient, profondes et larges. Point de pont, plus de guet. Deux paysans l'observaient de leur champ en riant d'avance de son mécompte. Mais quel ne fut pas leur étonnement quand ils virent les flots s'écarter et laisser un passage par où Germaine s'en alla tranquillement, sans même mouiller le bas de sa robe. Le bruit de ces merveilles parvint aux oreilles de ses parents, mais sans les faire changer de conduite. Un jour pourtant, Madame Cousin fut elle-même témoin d'un fait extraordinaire qui réussit je pense à lui ouvrir les yeux. Germaine, toute pauvre qu'elle était, trouvait toujours le moyen de faire l'aumône à de plus pauvres qu'elle. La marâtre s'en était aperçue. Elle surveillait la sainte fille, la soupçonnant de voler du pain à la maison. Voici qu'un matin d'hiver, elle la voit quitter la ferme avec son petit troupeau en cachant quelque chose dans son tablier. Qu'était-ce ? Sans doute quelques méchants croutons qu'elle avait ramassés après le repas de famille de la veille. Madame Cousin la suit en l'épiant. Elle la rejoint bientôt et lui crie « Viens ici, voleuse, rends-moi ce que tu m'as pris !» Et en même temps, elle tire avec violence sur le tablier de la bergère effrayée. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Du pain ? Non pas. De jolis bouquets de fleurs roses et blanches qui tombaient sur le sol gelé. Des fleurs en cette saison ? Et si belles, si parfumées, on n'en avait jamais connu de pareilles. On respirait le printemps à la rue. Tout juste, un paysan et une paysanne passaient par là qui furent témoins du miracle. À partir de ce jour, Maître Laurent protégea sa fille et l'aima. Il voulut lui rendre sa place au foyer et lui donner un bon lit pour la nuit. Mais toujours humble et douce, Germaine préféra garder son réduit obscur et continuer sa vie de pénitence. Elle mourut à l'âge de 22 ans. La nuit de sa mort, deux religieux égarés dans la forêt de Pibrac virent un beau cortège de saints et de saintes qui conduisait son âme au paradis. La charité de Sainte Gudule et le miracle des cerises. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Et du premier commandement, aimez Dieu, il ne veut pas qu'on sépare cet autre, aimez votre prochain. Mon enfant, tu aimes tes parents, tes frères, tes sœurs, très bien. Mais ce n'est pas fort difficile, et cela ne suffit point. Il faut aimer tous les hommes. Ils sont tous comme toi destinés au ciel. Jésus est mort pour tous sur la croix. Il faut aimer avec une sorte de prédilection les pauvres, avoir compassion de ceux qui souffrent, prier pour eux et quand l'occasion s'en présente, les secourir. Tous les saints nous ont donné l'exemple de la charité et Dieu a fait souvent de beaux miracles pour les récompenser. Je t'ai raconté celui qu'il opéra en faveur de la petite Germaine de Pibrac, quand pour montrer qu'il l'approuvait, il changea en bouquet de fleurs les croutons de pain qu'elle portait au cou. Voici un autre miracle assez semblable à celui-là et aussi joli. Il me plaît encore davantage, et voici pourquoi. D'abord parce qu'il advint à une petite sainte du pays de Flandre. Or, la Flandre est le pays de la pieuse artiste qui a peint pour toi les images de ce livre, et c'est aussi mon pays à moi. Ensuite, parce que, comme tu vas voir, il y a question dans cette histoire non de fleurs mais de cerises. Et j'aime beaucoup les cerises, toi aussi, je le sais. Les fleurs, tu les aimes aussi, bien sûr. Mais quand tu les as regardées et respirées, tu les laisses. Quant aux cerises, c'est joli, ces grosses perles rouges et luisantes. C'est joli sur l'arbre, joli dans les mains, joli comme boucle d'oreille, et puis c'est bon et frais et succulent dans la bouche. On peut aimer les cerises sans être gourmand, n'est-ce pas ? À condition de ne pas en manger trop et de ne point avaler les noyaux. Eh bien, écoute donc cette histoire de cerise. Au 7e siècle, naquit au château de Ham, près de Morzel, village situé entre Alos et Termonde, une petite fille qui reçut au saint baptême le nom de Gudule. Son père était le riche et puissant comte Wigger. Sa mère, sainte Amelberg, nièce de Pépin de Landen, duc d'Austrasie, dont ton professeur t'a parlé ou te parlera à la classe d'histoire. Quand elle eut 7 ans, ses parents la mirent en pension dans un couvent de Nivelles, dont l'abbesse n'était autre que Sainte Gertrude, fille de Pépin de Landen et marraine de la petite Gudule. À l'âge de 10 ans, elle y fit sa première communion avec une ferveur vraiment angélique. C'était une fillette exemplaire. studieuse, obéissante, pieuse. Elle allait devenir bientôt un merveilleux modèle de charité. Un enfant riche qui n'a jamais manqué de rien a-t-il pitié des pauvres ? Hélas, souvent même il ignore leur existence. Si l'on satisfait ses caprices, sa gourmandise et sa vanité, il devient égoïste et dur, de telle sorte que le jour où il rencontrera un pauvre, il se détournera de lui avec mépris. Mais Gudule avait, elle, un cœur très généreux. Le jour où elle apprit qu'il y avait au monde des enfants qui n'ont pas de jouets, pas d'habits chauds en hiver, pas de pain quelquefois, elle pleura d'abondantes larmes et elle dit à sa marraine « Je voudrais être leur maman ». Leur maman, elle allait le devenir. Revenue au château paternel après la mort de Sainte Gertrude, elle se dévoua tout entière aux pauvres de la contrée, tant et si bien que les gens du pays d'Alost l'entouraient de reconnaissance et de vénération. Ses parents ne lui refusaient pas l'argent qu'elle leur demandait pour ses aumônes. Mais plus elle visitait les pauvres dans leur cabane, plus elle découvrait de misère. Ici, un père impotent ne pouvait gagner le gain de ses petits. Là, une mère malade ne pouvait leur donner tous les soins. Gudule était partout, donnait toujours. Quelquefois, l'argentier du château se plaignait de ce qu'il appelait l'excès de bienfaisance de Mademoiselle Gudule. Mais le comte, heureux d'avoir une fille si bonne et si vertueuse, se contentait de la gronder doucement. Chaque fois, d'ailleurs, il se laissait vaincre volontiers par la douce insistance et l'amabilité de sa petite Gudule. Une fois cependant, il perdit patience. Au jour de l'an, le comte Wittger avait fait cadeau à sa fille d'un superbe collier de corail. Il se réjouissait déjà à la pensée de l'en voir parer, les grands jours de fête, sur sa robe claire, les beaux globes rouges et lisses brilleraient, rehausseraient le frais éclat de son pur visage. Or voici que l'argentier, dévoué jusqu'à l'indiscrétion, vint avertir son maître que le beau collier prendrait le chemin de tout le reste. Gudule s'en déferait au profit des pauvres. Wittger ne voulut pas le croire. « Les pauvres n'ont que faire de ce collier. C'est du pain qu'il leur faut. On n'achète pas ici du pain avec des coraux. Ma fille n'est pas insensée. » « Non, seigneur comte, elle est très avisée. Au contraire, elle connaît quelqu'un qui lui achètera son collier, et l'argent qu'elle en recevra passera aux pauvres. » « Comment le sais-tu ? » « Que mon seigneur me permette de ne pas en dire davantage. Il peut se rendre compte par lui-même. Mademoiselle Gudule ira ce soir vers 5 heures porter le collier à Morzel. » Wittger remercia sèchement son intendant et lui permit de se retirer. Le crépuscule d'hiver tombait terne triste. Le comte arpentait la grande salle où flambait un énorme feu de bûche. Par les fenêtres étroites rayées de noirs barreaux, on apercevait au-delà des étangs gelés la vaste plaine de neige où s'enfonçait çà et là un angle sombre de la forêt. Bien avant l'heure indiquée par son intendant, Wittger sortit à pied, armé seulement d'un bâton ferré, comme lorsqu'il allait voir ses bûcherons au travail dans la futaie. Il emporta une lanterne sans l'allumer. Cette fois, au lieu de pénétrer dans les bois, il prit un petit chemin pierreux, encaissé comme un lit de torrent entre les champs et les sapinières. À quelque distance du château, il s'arrêta, battit les buissons de son gourdin et se mit en embuscade. Pour aller à Morzel, sa fille devait nécessairement passer par là. Il alluma son falot, en cacha complètement la lumière sous son manteau de fourrure et attendit. Dans l'ombre encore transparente, la neige mettait une blancheur froide. La bise faisait grelotter les feuilles sèches aux chênes et aux feuillages. Au ciel s'allumaient des étoiles froides comme les cristaux de glace. Dans sa pelisse épaisse, Wittger n'avait pas chaud. Au loin, un loup hurla. Wittger eut un frisson. Il ne craignait pas pour lui, mais pour sa fille. L'imprudente enfant, si des loups l'attaquaient dans cette plaine déserte entre le château et le village. Déjà, elle se redressait pour aller au-devant d'elle et la prévenir du danger, lorsqu'il entendit sur la neige durcie le bruit moelleux d'un pas qui parfois glissait sur une pierre cachée. Et presque aussitôt, il reconnut sa fille, enveloppée dans la longue mante noire à capuchon que portent encore aujourd'hui les paysannes flamandes. Dévoila sa lanterne sortie de sa cachette et doucement, pour ne pas l'effrayer, il appela sa fille par son nom. Gudule s'arrêta, saisi quand même, devant son père qui se dressait dans le petit ravin. « Gudule, ma fille, que fais-tu là à cette heure ?» Gudule ne répondit pas. « Où vas-tu par ce froid atroce ?»«
Secourir une pauvre femme qui a plus froid que nous, mon père. »
« Fort bien, ma fille, mais n'entends-tu pas hurler les loups ?»«
Les loups ne m'ont jamais fait de mal, mon père. »«
Que caches-tu là sous ton manteau ?»
Gudule de nouveau se taisait. Le père écarta le manteau sous lequel sa fille dissimulait un petit panier. Il en souleva le couvercle, sûr d'y trouver le précieux collier de corail.
« Oh, merveille ! En plein mois de janvier, le panier était rempli jusqu'au bord de belles cerises toutes fraîches. Dans la clarté de la lanterne, elles étincelaient, plus précieuses que des coraux. La nuit d'hiver, soudain, s'illuminait du sourire de l'été. Le père et la fille regardaient, surpris tous les deux, lui avec de grands yeux écarquillés et incrédules, elle avec des yeux brillants de joie. Alors, comprenant que Dieu, par un miracle si gracieux, avait changé les coraux en France, cerise, pour approuver visiblement sa servante, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant doucement. « Viens, Gudule, » dit Viguer, après un temps en reprenant son falot, « je t'accompagnerai chez la brave femme que tu soignes. »«
Elle sera bien heureuse, » répondit simplement Gudule.
« Oui, bien heureuse. De sa vie, elle n'aura reçu un si beau décès. » Et le père, depuis lors, se garda bien de blâmer la charité de son enfant.
Dernier chapitre du livre « Sur la terre comme au ciel » Saint Antoine et l'enfant Jésus. Saint Antoine de Padoue, tu le connais bien un peu. Tu le pries lorsque tu as perdu un objet qui t'est cher, ton chapelet ou ta toupie, ou ton plumier. Et il t'arrive peut-être souvent de les égarer, non? Saint Antoine a sa statue à l'église, ou son image, dans ton livre de prière. Tu te rappelles sa robe de bure, sa blanche cordelière à gros nœuds, ses pieds nus dans ses sandales. Et il n'est jamais seul. L'enfant Jésus est avec lui, lui passe un bras autour du cou, ou lui caresse la figure. Saint Antoine a l'air humble et doux. On le dirait très pauvre, en même temps que très heureux. Et c'est vrai qu'il a été pauvre sur la terre, parce qu'il l'a voulu pour l'amour de Dieu, car ses parents étaient nobles et riches et habitaient à Lisbonne, capitale du Portugal, un beau palais en face de la cathédrale. Il s'appelait de Bouillon, comme Godefroy de Bouillon, chef de la première croisade, et roi de Jérusalem, qui fut, pense-t-on, un de ses ancêtres. Le jeune gentilhomme, voulant imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui vécut pauvre sur la terre, renonça aux richesses, aux plaisirs, aux honneurs qui l'attendaient dans le monde. Son brillant nom de famille et même son nom de baptême, qui était Fernand, il les cacha sous celui plus modeste de frère Antoine. Et c'est sous ce nom d'emprunt qu'il vécut, qu'il entra au ciel et qu'il est toujours honoré par les chrétiens. S'étant retiré d'abord dans un couvent de chanoines de Saint-Augustin, plus tard, pour être plus pauvre encore, il obtint de passer dans l'ordre des frères mineurs qui venaient de fonder Saint-François d'Assise. Antoine devint un grand savant et un puissant prédicateur. Il faisait beaucoup de miracles. Les bons chrétiens l'admiraient et le diable avait peur de lui. Mais Antoine n'en était pas plus fier. Il restait simple et bon,
aimable envers tous et très obéissant envers ses supérieurs. Surtout, il aimait tendrement notre Seigneur et le priait souvent. C'est ce qui explique tous ses succès et son pouvoir sur les âmes. Or, vois comme Jésus récompensait son fidèle ami. Pendant qu'Antoine priait seul dans sa chambre, Jésus lui apparaissait, causait avec lui, le caressait tendrement. Nous ne l'aurions jamais su, sans doute, car Antoine était bien trop humble pour révéler les faveurs dont le comblait le ciel. Mais un homme, un jour, a vu de ses propres yeux le miracle. Le fait est si joli que je veux te le raconter. Une fois qu'il passait quelque temps à Limoges, en France, saint Antoine avait accepté l'hospitalité d'un ami riche et pieux. Après le repas du soir et la prière en commun, il avait souhaité la bonne nuit à ses hôtes et s'était retiré dans sa chambre à l'étage. Assez tard dans la nuit, le maître de maison, qu'une vérification de compte avait retenu longtemps dans son bureau, monta se coucher le dernier. Il fut surpris de voir des raies de lumière glisser sous la porte de la chambre du bon missionnaire. Qu'Antoine veilla, cela ne l'eut pas trop étonné. Mais la lumière qui coulait sur le plancher ne pouvait pas être la faible lueur de la chandelle qu'il avait plantée lui-même dans le bougeoir de cuivre. C'était comme du soleil en plein midi. Intrigué, il redescendit doucement, sortit dans la cour et leva les yeux vers l'étroite fenêtre à meneaux. Ô merveille ! Une clarté en ruisselait, telle qu'on eût dit qu'il y avait là-haut de grands lustres allumés. Les feuillages de la cour en paraissaient comme trempés dans un vernis d'or. Que pouvait signifier tout cela ? Le brave homme se le demandait. Il pensa d'abord réveiller sa femme, mais il se ravisa, sachant qu'elle manquerait de calme et ne saurait dominer sa curiosité. Curieux, il l'était lui-même, mais retenu en même temps par une certaine crainte, comme on en éprouve devant les choses trop belles et qui fait qu'on retient le souffle pour ne rien déranger. Ce qu'il voyait, il ne pouvait l'expliquer qu'en supposant un miracle. Enfin, soit qu'il domina sa crainte, soit qu'il céda à sa curiosité trop forte, notre homme remonta sur la pointe des pieds. Il s'arrêta au palier, écouta. Par intervalle, il lui semblait entendre la voix d'Antoine qui chuchotait. Sans doute le saint priait-il. Oui, mais ensuite une autre voix répondait, fine, fluette, douce, une voix d'enfant, claire comme le tintement d'une coupe de cristal, ou le babil des sources dans la montagne. Le brave bourgeois ne se possédait plus. Il voulut voir. D'un doigt prudent, il frappa à la porte. Point de réponse. Il frappa plus fort. Rien. Alors, avec mille précautions, pour que les gonds ne criassent pas, il entrebâilla la porte. Et sais-tu ce qu'il vit ? Il n'y avait dans la chambre ni lustre ni lampe. La chandelle dans le bougeoir ne brûlait point, ni la bûche dans le foyer. La lumière lui semblait d'abord venir de partout et de nulle part. Les meubles ne jetaient pas d'ombre. Antoine, agenouillé sur le prie-Dieu, devant le livre ouvert des évangiles, tendait la tête et toute son âme vers un bel enfant qui, tantôt debout sur le livre, tantôt dans ses bras, lui souriait suavement. Et c'était du visage de cet enfant, de ses cheveux blonds, de sa robe d'or, que la lumière se répandait, cette lumière qui ne faisait pas d'ombre. Antoine en avait la figure, la bure et les mains toutes dorées. Et l'enfant, plus câlin que jamais, enfant ne le fut avec sa mère, caressait le saint homme tout en répondant aux prières émues que celui-ci balbutiait. Le brave Limousin avait compris. Son ami recevait la visite du petit Jésus. Maintenant qu'il savait, il eût pu se retirer, ce me semble. Déjà, il s'était montré trop curieux. Mais le spectacle était si beau, les paroles si douces, que le pauvre homme ne pouvait se décider à s'en priver. De toute son âme, il respirait le paradis. Toi-même, mon enfant, si tu avais été là, aurais-tu été pressé de partir ? Mais Jésus, soudain, leva un doigt, comme fait maman quand elle te gronde. Et elle dit à Antoine d'un air mystérieux, « Quelqu'un nous regarde et nous écoute. » Il ne paraissait point fâché, car l'hôte, je te l'ai dit, était un homme fort pieux, et depuis un long moment, il priait de tout son cœur comme après la communion. En entendant la remarque de Jésus, le bon bourgeois rougit très fort et écartant les mains qu'il tenait jointes, il se retira à reculons, en refermant la porte le plus doucement qu'il put. Le lendemain, le saint missionnaire le prit à part et lui dit « Mon bon et généreux ami, je vous ai peut-être dérangé. Oh non !» protesta celui-ci, « au contraire, pardonnez-moi d'avoir été indiscret. Je n'ai rien à vous pardonner. Je ne méritais pas la visite divine. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Dieu est indulgent à mon égard. Ô vénérable Père, plus que d'autres, vous méritiez, vous. Ne dites pas cela. Jésus a visité votre maison. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est une bénédiction. Remercions-le de cette grâce. Mais puis-je vous demander tout ce qu'il vous plaît, vénérable Père? Eh bien, tant que je vivrai, vous ne soufflerez mot du secret que vous avez surpris. Je promets, mais après votre mort, si je vous survivais. » Le saint hésita. « Soit, dit-il enfin, si cela peut servir à la gloire de Dieu. » Peut-être ce miracle s'est-il renouvelé plusieurs fois, nul ne le sait. Tu penses bien qu'Antoine ne l'a pas révélé. Soyons heureux que son hôte l'ait constaté une fois. Mon enfant, tu trouves que saint Antoine a eu bien de la chance, n'est-ce pas? Quel bonheur de voir le Jésus, de le tenir dans ses bras, de lui parler face à face. Mais sache que le petit Jésus est aussi près de toi quand tu pries dévotement et quand tu communies. Ne le possèdes-tu pas bien réellement? Il ne se montre pas, mais cela ne fait rien. Il est là quand même et t'écoute. Il caresse ta petite âme de ses plus douces joies. Il l'orne et l'enrichit de ses grâces. Il te parle et te répond. Il est ton ami. Et si tu es sage, il restera toujours ainsi tout près de toi.